Vous écoutez On lit pour vous.
Relâche, choisir l'ennui, un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 18 février 2024 dans la presse. Que faisiez-vous de votre ennui, enfant? J'ai tellement évacué l'ennui de ma vie que je dois travailler fort pour retrouver de vagues souvenirs. Avant la stimulation constante, l'information au bout des doigts et la possibilité d'être distraite sur demande, je faisais quoi quand le temps était long? La question m'habite depuis que Paul Journet et moi avons reçu Henri Jeune Pilote pour un épisode de notre émission de radio « Les idées folles ». On voit l'heure complète au sujet de l'attention, curieux de savoir comment la diriger vers ce qui compte vraiment. Le créateur de contenu et conférencier nous a expliqué avoir pris une longue pause des réseaux sociaux alors qu'il se remettait d'un épuisement professionnel. C'est devenu très clair pour lui, il devait réapprivoiser l'ennui s'il voulait cesser de s'étourdir en ligne. Mais que faire quand on ne fait rien? Henri Jeune Pilote a eu l'idée de revisiter ce qui le distrayait enfant. Pendant des mois, il a noté la moindre activité qui lui revenait en tête. Il s'est créé une banque de possibilités pour déjouer ses réflexes numériques. Henri Jeune dit qu'il ne pouvait plus se faire confiance. Son cerveau conditionné à l'effervescence lui laissait entendre qu'il devait consulter ses courriels, googler une recette ou vérifier un truc sur Instagram. N'importe quoi, sauf le calme plat. Le créateur de contenu a donc dû apprendre à se déjouer lui-même. Pas simple. Son témoignage m'est rentré dedans. Il m'a rappelé qu'on a déjà su vivre la platitude. En grandissant à l'abri du numérique, on a connu la lenteur et, surtout, on l'a laissé nous happer. Depuis le passage d'Henri Jeune dans le studio d'Ici Première, des souvenirs remontent à la surface. Marcher, alors que le vent se lève, et fabuler une folle tempête, dénicher tous les crapauds dans la cour pour les rassembler en un village, orchestrer une fête d'anniversaire hebdomadaire pour mon chat, écouter la trame sonore de la série Ally McBeal en imaginant être dans un vidéoclip, lire, lire encore, lire plus. Observer mes sœurs aînées et tenter de comprendre à travers elles ce que ça veut dire être fille. Attendre que ma mère finisse son long shift au resto en espionnant les clients. Me raconter des histoires, au fond. Je m'ennuie de ces brèves années où la fuite se faisait par en dedans, où j'avais une relation stable avec mon imaginaire. En même temps, est-ce socialement acceptable de collectionner les crapauds vivants à 35 ans? Dans son essai « The Comfort Crisis », le journaliste Michael Easter rappelle qu'environ 100 000 générations avant nous n'ont rien connu de numérique dans leur vie. Aujourd'hui, on utilise un média numérique, cellulaire, télé, ordinateur, en moyenne plus de 11 heures par jour. Ce n'est pas sans conséquence. L'auteur s'appuie sur le travail du chercheur James Dankert de l'Université de Waterloo pour expliquer qu'en gros, notre cerveau a deux modes, concentré ou non. Le premier est sollicité dès qu'on doit porter attention à quelque chose, que ce soit les propos d'un ami ou les niaiseries sur notre cellulaire. Quand on n'a pas à se concentrer sur quoi que ce soit de précis, c'est l'autre mode qui embarque. Visiter cette zone de non-concentration nous permet de nourrir les ressources essentielles à la productivité, la créativité et le traitement d'informations complexes. Ce qui fait écrire à Michael Easter que les 11 heures quotidiennes qu'on voue au monde digital ne sont pas gratuites. Elles nous demandent de grands efforts et peuvent nous épuiser mentalement. Il faut réapprendre à errer dans notre esprit et ou dans l'espace. J'ai appelé Henri June Pilote il y a quelques jours. Je lui ai dit que je voulais vous informer de sa démarche, puisqu'elle m'avait tant fait réfléchir. C'est un gars généreux. Il m'a accordé sa permission. J'en ai profité pour lui demander ce qu'il faisait, lui, quand il s'ennuyait enfin. Je me souviens de passer des heures assis à inventer des épisodes aux séries télé que j'aimais. Je chantais à voix haute aussi. J'inventais des paroles. On aurait été amis. Après des mois à tenter de retrouver tes vieux réflexes, qu'est-ce que tu as finalement appris? C'est drôle, mais quand on est enfant, on est impatient de grandir. Je me souviens d'attendre, et de réaliser que j'avais finalement grandi, mais que j'avais encore cette attente. Jeune, je passais le temps en lisant au parc, je sentais le soleil sur ma peau et j'étais capable d'être pleinement relax. Mais en même temps, j'obsédais sur mon avenir. Sauf que je suis un adulte maintenant. Je suis rendu où je voulais me rendre. Je peux enfin juste relaxer. Durant la semaine de relâche, des enfants s'ennuieront. Je le leur souhaite du moins. Ils ne le savent peut-être pas, et ce n'est certainement pas notre rythme de vie qui va leur vendre la mèche, mais pouvoir regarder les minutes passées est une petite chance. Et j'espère que leurs parents en profiteront pour se rappeler qu'à une époque, l'ennui était un luxe qu'ils se permettaient eux aussi. C'est peut-être même en l'explorant qu'ils ont développé des parts importantes d'eux-mêmes, leur créativité, leur contemplation, leur voix intérieure et leurs angoisses. Ce n'est pas tout parfait non plus. On est rendu où on attendait impatiemment de se rendre. On est grand, on est occupé, et on a mille et une manières de se distraire pour se récompenser. Mais pourquoi a-t-on arrêté de chanter des paroles inventées? C'était « Relâche, choisir l'ennui », un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 18 février 2024 dans la presse.
Ce moteur de recherche peut-il remplacer Google? Un texte de Kevin Rose du New York Times, paru le 14 février 2024 dans la presse. Tout au long de ma vie d'adulte, chaque fois que j'ai eu une question sur le monde ou que j'ai eu besoin de trouver quelque chose en ligne, j'ai cherché des réponses sur Google. Mais depuis peu, je m'éloigne de Google avec un nouveau moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle, IA. Non pas Bing, qui est mort à mes yeux après avoir essayé de briser mon mariage l'année dernière. Il s'agit de Perplexity. Ce moteur de recherche dont les fondateurs ont travaillé dans la recherche en intelligence artificielle chez OpenAI et Meta est rapidement devenu l'un des produits les plus en vogue dans le monde de la technologie. Les initiés de la technologie en font l'éloge sur les réseaux sociaux et des investisseurs comme Jeff Bezos, qui était également un investisseur de la première heure de Google, l'ont arrosé d'argent. L'entreprise a récemment annoncé qu'elle avait amassé 74 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Institutional Venture Partners, ce qui la valorise à 520 millions de dollars américains, plus de 700 millions de dollars canadiens. Intrigué par le battage médiatique, j'ai récemment passé plusieurs semaines à utiliser Perplexity comme moteur de recherche par défaut, à la fois sur ordinateur et sur mobile. J'ai testé à la fois la version gratuite et le produit payant. Perplexity Pro, qui coûte 20 US par mois et donne aux utilisateurs l'accès à des modèles d'IA plus puissants et à certaines fonctionnalités comme la possibilité de télécharger leurs propres fichiers. Des centaines de recherches plus tard, je peux dire que même si Perplexity n'est pas parfait, il est très bon. Et même si je ne suis pas prêt à rompre totalement avec Google, je suis désormais plus convaincu que les moteurs de recherche alimentés par l'IA comme Perplexity pourraient desserrer l'emprise de Google sur le marché de la recherche ou, du moins, l'obliger à rattraper son retard. J'ai également peur que les moteurs de recherche dotés d'IA ne détruisent mon emploi et que l'ensemble du secteur des médias numériques ne s'effondre à cause de produits comme ceux-ci. Mais je m'avance un peu. Les points forts. À première vue, l'interface de Perplexity ressemble beaucoup à celle de Google, une zone de texte centrée sur une page d'accueil peu fournie. Mais dès que vous commencez à taper, les différences deviennent évidentes. Lorsque vous posez une question, Perplexity ne vous renvoie pas à une liste de liens. Au lieu de cela, il parcourt le web pour vous et utilise l'intelligence artificielle pour rédiger un résumé de ce qu'il a trouvé. Ses réponses sont annotées de liens vers les sources utilisées par l'IA qui apparaissent également dans un panneau au-dessus de la réponse. J'ai testé Perplexity sur des centaines de requêtes, notamment des questions sur l'actualité. Comment Nikki Haley s'est-elle débrouillée dans les primaires du New Hampshire? Des recommandations d'achat, quelle est la meilleure nourriture pour un chien âgé souffrant de douleurs articulaires, et des tâches ménagères, pendant combien de temps un ragoût de bœuf reste-t-il bon dans le réfrigérateur? Chaque fois j'ai reçu une réponse générée par l'IA, généralement d'un ou deux paragraphes parsemés de citations de sites web tels que NPR, The New York Times et Reddit, ainsi qu'une liste de questions complémentaires que je pouvais poser. Par exemple, peut-on congeler un ragoût de bœuf pour qu'il se conserve plus longtemps? Une fonction impressionnante de Perplexity est le copilote, qui aide l'utilisateur à affiner sa requête en lui posant des questions complémentaires. Lorsque j'ai demandé des idées pour organiser une fête d'anniversaire pour un enfant de 2 ans, par exemple, Copilote m'a demandé si je voulais des suggestions pour des espaces extérieurs, des espaces intérieurs ou les deux. Lorsque j'ai choisi « intérieur », il m'a demandé de choisir un budget approximatif pour la fête. Ce n'est qu'ensuite qu'il m'a donné une liste de lieux possibles. Perplexity est également capable d'admettre qu'il ne sait pas quelque chose, ce qui est rafraîchissant. Parfois, il a donné une réponse partielle à ma question, avec une mise en garde du type « Les résultats de la recherche ne fournissent pas de détails supplémentaires ». La plupart des produits de chat IA que j'ai utilisés n'ont pas ce genre d'humilité. Ils semblent sûrs de leur réponse, même lorsqu'ils racontent n'importe quoi. Les domaines où Google domine encore. Lors de mes tests, j'ai trouvé Perplexity très utile pour les recherches compliquées ou ouvertes, par exemple pour résumer des articles récents sur une entreprise spécifique ou pour me donner des suggestions de restaurants pour un soir. Je l'ai également trouvé utile lorsque ce que je cherchais, des instructions pour renouveler un passeport, par exemple, était caché sur un site web encombré à la navigation difficile. Toutefois, je me suis rabattu sur Google pour quelques types de recherches, généralement lorsque je cherchais des personnes précises ou des sites web dont je connaissais déjà l'existence. Par exemple, lorsque j'ai tapé « Wayback Machine » dans la barre de recherche de mon navigateur, j'ai été redirigé vers Perplexity qui a produit un essai d'un paragraphe sur l'histoire de l'Internet Archive, l'organisation qui gère la Wayback Machine. J'ai dû chercher un petit lien de citation pour accéder au site web de la Wayback Machine, ce que je voulais au départ. Vous écoutez, ce moteur de recherche peut-il remplacer Google? Un texte de Kevin Rose du New York Times paru le 14 février 2024 dans la presse. Une situation similaire s'est produite lorsque j'ai demandé à Perplexity de m'indiquer le chemin à suivre pour me rendre à une réunion de travail. Grâce à son intégration avec Google Maps, Google m'aurait donné des indications détaillées à partir de chez moi. Mais Perplexity ne sait pas où j'habite et le mieux qu'il puisse me proposer est un lien vers MapQuest. Les données de localisation ne sont que l'un des nombreux avantages dont dispose Google par rapport à Perplexity. La taille en est un autre. Perplexity, qui ne compte que 41 employés et est établi dans un espace de travail partagé à San Francisco, compte 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, un chiffre impressionnant pour une toute jeune start-up, mais une goutte d'eau par rapport aux milliards d'utilisateurs de Google. Perplexity n'a pas non plus de modèle commercial lucratif. Pour l'instant, le site n'a pas de publicité et moins de 100 000 personnes paient pour la version premium, a déclaré Aravind Srinivas, PDG de l'entreprise. Et, bien sûr, Perplexity ne propose pas de version de Gmail, de Google Chrome, de Google Docs ou de l'un des dizaines d'autres produits qui rendent l'écosystème de Google si incontournable. M. Srinivas a déclaré que même s'il pensait que Google était un concurrent redoutable, une petite start-up ciblée pourrait le faire sursauter. Ce qui me rend confiant, c'est le fait que s'ils veulent faire mieux que nous, ils devront essentiellement tuer leur propre modèle d'entreprise, a-t-il déclaré. Qu'en est-il des hallucinations? L'un des problèmes des moteurs de recherche basés sur l'IA est qu'ils ont tendance à halluciner, à inventer des réponses et à s'éloigner parfois de leurs sources. Ce problème a hanté plusieurs hybrides de recherche IA, y compris la version initiale de Bard de Google, et reste l'un des principaux obstacles à une adoption massive. Lors de mes tests, j'ai constaté que les réponses de Perplexity étaient pour la plupart exactes, ou, pour être plus précis, qu'elles étaient aussi exactes que les sources sur lesquelles elles s'appuyaient. J'ai toutefois relevé quelques erreurs. Lorsque j'ai demandé à Perplexity de me donner la date du prochain match de tennis de Novak Djokovic, il m'a donné les détails d'un match qu'il avait déjà terminé. Une autre fois, lorsque j'ai téléchargé un fichier PDF d'un nouvel article de recherche sur l'IA et que j'ai demandé à Perplexity de le résumer, j'ai obtenu un résumé d'un article totalement différent, publié il y a 3 ans. M. Srinivas a reconnu que les moteurs de recherche alimentés par l'IA commettaient encore des erreurs. Il a expliqué que Perplexity étant un petit produit relativement obscur, les utilisateurs ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse autant autorité que Google et que ce dernier aurait du mal à intégrer l'IA générative dans son moteur de recherche parce qu'il devait maintenir sa réputation d'exactitude. Disons que vous utilisez notre produit et que nous obtenons de bons résultats sur 8 requêtes sur 10. Vous seriez impressionné, a affirmé M. Srinivas. Supposons que vous utilisiez le produit de Google et qu'il n'obtienne que 7 sur 10. Vous vous demanderiez comment Google peut se tromper sur 3 requêtes. Cette asymétrie est notre chance, a-t-il ajouté. Une victoire pour les utilisateurs, une perte pour les éditeurs. Même si j'ai apprécié Perplexity et que je continuerai probablement à l'utiliser en tandem avec Google, je dois admettre que j'ai eu un pincement au cœur après l'avoir vu produire des résumés impeccables et concis d'articles d'actualité, de revues de produits et d'articles pratiques. Aujourd'hui, l'économie des médias numériques repose encore en grande partie sur un flux régulier de personnes qui cliquent sur les liens de Google et se voient proposer des publicités sur les sites web des éditeurs. Avec Perplexity, il n'est généralement pas nécessaire de visiter un site web. L'IA se charge de la navigation à votre place et vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin, directement sur la page de réponse. la possibilité que les moteurs de recherche alimentés par l'IA remplacent le trafic de Google ou incitent Google à intégrer des fonctions similaires dans son moteur de recherche, comme il a commencé à le faire avec son expérience Search Generative Experience, est en partie la raison pour laquelle de nombreux éditeurs numériques sont terrifiés en ce moment. C'est aussi en partie la raison pour laquelle certains se défendent, notamment le Times, qui a poursuivi OpenAI et Microsoft pour violation des droits d'auteur l'année dernière. Après avoir utilisé Perplexity et entendu parler de produits similaires développés par d'autres jeunes pousses, je suis convaincu que ceux qui sont inquiets n'ont pas tort. Si les moteurs de recherche IA peuvent résumer de manière fiable ce qui se passe dans la bande de Gaza ou dire aux utilisateurs quel grille-pain acheter, pourquoi quelqu'un visiterait-il encore le site web d'un éditeur? Pourquoi les journalistes, les blogueurs et les évaluateurs de produits continueraient-ils à mettre leur travail en ligne si un moteur de recherche d'IA ne fait que l'engloutir et le régurgiter? J'ai fait part de ces craintes à M. Srinivas, qui a répondu par une esquive diplomatique. Il a admis que Perplexity enverrait probablement moins de trafic vers les sites web que les moteurs de recherche traditionnels. Mais il a ajouté que le trafic restant serait de meilleure qualité et plus facile à monétiser pour les éditeurs, car il résulterait de requêtes de meilleure qualité et plus ciblées. Je suis sceptique quant à cet argument et je suis toujours nerveux par rapport à ce que l'avenir réserve aux écrivains, aux éditeurs et aux personnes qui consomment des médias en ligne. Pour l'instant, je dois donc mettre en balance la commodité d'utilisation de Perplexity et la crainte de contribuer à ma propre perte en l'utilisant. C'était « Ce moteur de recherche peut-il remplacer Google ?» un texte de Kevin Rose du New York Times paru le 14 février 2024 dans la presse.
La coroner inquiète pour le filet de sécurité devant attraper les personnes atteintes de graves troubles mentaux. Un texte de Stéphanie Marin paru le 13 février 2024 dans Le Devoir. Les trous dans le filet de sécurité devant attraper les personnes aux prises avec de graves troubles de santé mentale inquiètent la coroner Jeanne Kamel. Devant elle, des psychiatres ont expliqué comment il est ardu et complexe d'aller devant les tribunaux pour faire soigner ceux qui refusent tout traitement. Les psychiatres témoignent à la deuxième journée d'audience publique sur les décès de la policière de la Sûreté du Québec, SQ, Maureen Brault, et de celui qui l'a mortellement attaqué au couteau, Isaac Brouillard-Lessard, 35 ans, a été abattu par la police peu après, le 27 mars 2023. Quatre policiers de la SQ s'étaient rendus à son logement dans une maison de chambre de Louisville, en Mauricie, après qu'il eut fait des menaces de mort à son oncle. L'enquête publique se déroule au palais de justice de Trois-Rivières. Lundi, le 12 février 2024, la vie d'Isaac Brouillard-Lessard a été détaillée devant le coroner, qui a entendu parler de ses nombreux problèmes de santé mentale, de sa consommation de drogue et de plusieurs années ponctuées d'événements violents, de délires et d'hospitalisation en psychiatrie. Mardi, le 13 février 2024, le docteur Marc Tanous, un psychiatre qui a suivi Isaac dans les Laurentides à partir de 2019, a témoigné en premier. Il a relaté un appel de la mère d'Isaac dans lequel elle disait craindre pour lui parce qu'il devenait plus colérique et qu'il ne maintenait pas le contact avec ses proches. Elle soupçonnait une rechute psychotique. Le docteur avait appris de son patient qu'il avait aussi eu une violente altercation avec le concierge de l'immeuble où il habitait, à Louisville. La veille, à l'enquête, on a appris qu'il l'avait attaqué parce qu'il n'y avait plus d'eau et qu'il lui avait fracturé le menton.
Le docteur Tanous a expliqué que la mère d'Isaac avait noté les premiers signes de décompensation, mais que ses options d'intervention étaient limitées. Ces informations données par la mère n'étaient pas suffisantes pour qu'on puisse l'hospitaliser contre son gré. Pour cela, il faut que le patient présente un danger réel et immédiat, le critère légal à respecter, et qui n'était pas rempli à ce moment, selon lui. Il n'avait pas non plus de délégation de pouvoir du tribunal qui lui aurait permis de ramener Isaac à l'hôpital pour des soins. Il y a quand même un petit cocktail explosif et un parent a levé un drapeau rouge, lui a lancé la coroner, qui note que la violente attaque contre le concierge était un danger. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas de leviers légaux pour agir. Les psychiatres n'ont pas de levier, a lancé la coroner, demandant au docteur Tanous de la rassurer. Il y a un filet de sécurité pour ces gens-là. Une psychiatre légiste a aussi témoigné. La docteure Marie-Frédérique Allard a eu Isaac sous ses soins à l'hôpital en 2018. Elle a relaté qu'il avait menacé de l'étrangler, lui avait craché au visage et avait renversé un bureau sur elle. À cette époque, il refusait toute médication, car il disait que ça lui ruinait la vie. Isaac pouvait être calme, puis devenir soudainement explosif, avant de redevenir calme assez rapidement, a-t-elle déclaré. La psychiatre a déclaré que le système légal pour les gens qui souffrent de troubles mentaux est complexe. Il y a des délais, c'est fastidieux. Il y a des failles, des trous. Les délais irritent aussi le psychiatre David Olivier. La délivrance d'une autorisation de soins par la Cour supérieure peut prendre 3 à 4 semaines, a-t-il déploré. Certaines demandes doivent se faire devant la Cour du Québec, mais d'autres se déroulent en Cour supérieure ou encore devant le Tribunal administratif du Québec. 3 systèmes différents, a soupiré la docteure Allard. Pour intervenir, dans certains cas, il faut que la personne soit inapte et dans d'autres, il faut que la personne soit dangereuse. Il n'y a pas de conciliation entre ces 2 critères, a dit la psychiatre Allard, exprimant qu'il faudrait peut-être regrouper tout cela au même endroit, dans une espèce de tribunal en santé mentale, pour mieux traiter les patients. C'était la coroner inquiète pour le filet de sécurité devant attraper les personnes atteintes de graves troubles mentaux. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 13 février 2024 dans Le Devoir.